Guy Pervilliers est historien, il enseigne à l'université Toulouse 2, spécialisée dans l'histoire de la colonisation et décolonisation de l'Empire colonial français. Il était l'invité des journées de l'Arazette. C'est à l'occasion donc de ce colloque intitulé « La France et l'Algérie, l'histoire et l'avenir en partage » que Guy Pervilliers est intervenu donc sur son sujet de prédilection et sur son thème de recherche, la France et l'Algérie, et plus particulièrement la guerre en Algérie. Il en a profité pour revenir sur les tensions qui existent aujourd'hui en France entre l'histoire et la mémoire.
Je vais donc essayer de tenir mon engagement, mais je dois tout de suite vous préciser que, en fait, il y a une modification par rapport au sujet annoncé. Donc, ce qui était l'Algérie française 1830-1962, les visions des porteurs du projet. En fait, j'ai eu une hésitation parce que, au début, j'avais l'impression qu'on voulait me faire parler vraiment du tout début, alors que mes préoccupations me conduisaient plutôt à parler de la période la plus récente. Et finalement, j'ai trouvé un moyen terme consistant à revenir sur les aspects essentiels du sujet en remontant le temps. Il me semble en effet que la démarche historique, si elle est vraiment intégrale, doit tenir compte de tous les faits connus et donc d'un passé qui n'est pas limité arbitrairement à telle ou telle date. Alors, je vais donc partir du présent, parce que c'est ce qui me paraît le plus important, mais en même temps rechercher les racines en remontant le plus possible dans le passé. Alors, j'ai prévu six parties, mais qui seront inégales. Alors, d'abord, première partie, histoire et mémoire de la guerre d'indépendance algérienne en France depuis 1962. Alors, il s'agit donc de la période actuelle, ou plutôt de deux périodes très différentes. Disons qu'en tout cas, depuis le début de mes recherches vraiment historiques en 1970 jusqu'au début des années 90, l'histoire de la guerre d'Algérie était, me semble-t-il, une histoire discrète et dépassionnée, enfin au moins en apparence, alors que depuis le début des années 90, cette histoire est redevenue de plus en plus actuelle, et s'exprime en tout cas dans un style qui n'est pas aussi clairement historique et qui redevient un style qui semble relever davantage de la mémoire et de la passion. Il y a donc eu, je pense, un changement dans les années 90 qui me fera s'expliquer notamment par ce qu'on appelle parfois la deuxième guerre d'Algérie qui a fait que la première guerre d'Algérie en est apparue comme la préface, à moins que la deuxième guerre en soit en quelque sorte une répétition. Et en tout cas, c'est le point de vue le plus fréquent en France, alors qu'en Algérie, au contraire, nous avons l'impression que le discours des deux camps qui se sont affrontés dans la guerre civile algérienne, donc celui du camp islamiste et celui du pouvoir ou de ses alliés, eh bien, revendiquaient rivalisait donc dans la revendication de la légitimité et de l'héritage des Algériens qui s'étaient sacrifiés pour l'indépendance de leur patrie. Et il faut ajouter également que cette deuxième guerre d'Algérie a tendu à se transporter jusqu'en France, en particulier dans les années 1995 et 96. Il y a eu des attentats, plusieurs attentats à Paris et notamment. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une tendance encore accrue à une réactualisation du passé et à un réveil des vieilles controverses. Et cette évolution allait en sens inverse de celle qu'on aurait pu attendre, tout au contraire, car depuis 1992, les archives publiques concernant la guerre d'Algérie, en tout cas les archives publiques françaises, se sont assez largement ouvertes, beaucoup plus qu'avant. Ce qui fait qu'on aurait pu s'attendre, au contraire, à un grand essor de l'histoire. Et il est vrai que cet essor de l'histoire s'est produit. Les recherches, les thèses d'histoire sur la guerre d'Algérie se sont considérablement multipliées depuis 1992. Et pourtant, ce sujet n'apparaît aujourd'hui pas du tout ou très peu comme un sujet d'histoire, mais bien comme un sujet de mémoire, et on peut dire de mémoire au pluriel, de mémoires affrontées, et conflictuel.
Aimé Césaire, figure politique, poète de la négritude informe dès dimanche le ministre qu'il ne le recevra pas pour deux raisons. La première personnelle, la seconde parce que lui, l'anticolonialiste résolu, ne digère pas le fameux article 4 de la loi sur les rapatriés, voté en février dernier et qui impose au manuel scolaire de valoriser le rôle positif de la colonisation française. Depuis deux jours en Martinique, la température
montait de plus en plus. Personne ne fait procès à la France, mais la France se fait un procès continuel. Enfin, il ne faut pas non plus négliger quand même toutes les paroles victimaires qui aujourd'hui s'agglomèrent, toutes les mémoires.
Il y a une concurrence des victimes.
Il y a une concurrence des victimes depuis des années, mais ce n'est pas né d'aujourd'hui, c'est au moins 15-20 ans. Toutes les catégories sociales aujourd'hui se présentent sous l'aspect du génocide. Donc, pourquoi? Parce que on veut endosser la souffrance maximale pour être entendu. Parce que tout le monde se bat pour être reconnu par la puissance étatique et pour avoir la sympathie de l'opinion.
C'est la morale qui intervient dans l'histoire. Ça va même au-delà du bilan comptable. Il faudrait faire un bilan comptable et en plus donner une valeur morale. L'historien ne peut pas rentrer là-dedans.
Seuls les totalitarismes, soviétiques en particulier, se sont arrogés le droit, par un décret politique, d'écrire ce que l'histoire et l'enseignement de l'histoire devraient être.
Et il y a donc, me semble-t-il, une concurrence entre ces deux optiques, l'histoire et la mémoire. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que les historiens, en tout cas, sont perçus comme ayant pris des positions d'historiens. Les réactions des historiens sont perçues comme venant à l'appui de tel ou tel des camps qui s'affrontent parmi les défenseurs de telle ou telle mémoire particulière. Et un exemple de cet embrigadement, au moins supposé, des historiens, c'est la soutenance de thèse de la jeune historienne Raphaëlle Branche. C'était, je crois, à la fin de 2000. Oui. Et donc cette thèse sur la torture employée par le camp français dans la guerre d'Algérie, eh bien, a été perçue par les camps mémoriels en présence, soit comme un appui à leur thèse, soit comme, au contraire, un enrôlement dangereux du côté de l'autre camp. Et le résultat est que cette thèse a été discutée et souvent disqualifiée en tant qu'intervention d'une historienne dans le champ de la mémoire. En tout cas, il n'y a pas du tout une distinction nette dans l'esprit du public, entre le rôle des historiens et celui des partisans qui s'affrontent dans ces camps. Alors, pour revenir rapidement sur le problème de la thèse de Raphaëlle Branche, en fait, je pense que cette utilisation ou cette condamnation de sa thèse relève en grande partie d'une méconnaissance de la nature de son travail. Et elle a elle-même très bien expliqué dans la préface de sa thèse que les limites imposées par l'exercice de la thèse qui doit se réaliser dans un temps limité faisaient qu'elle n'avait pu traiter qu'un sujet limité. Donc c'est la torture employée par les Français dans la guerre d'Algérie. Et elle reconnaît elle-même très bien dans la préface que ce n'est pas l'ensemble de l'utilisation de la torture dans la guerre d'Algérie par les deux camps. Et il y a là, je pense, la source du malentendu qui lui a valu des ennuis fâcheux. Mais d'autre part, le livre de mon voisin, donc de gauche, enfin Gilbert Meynier,
de gauche.
Oui, dans tous les sens du terme, donc consacré lui à l'histoire du FLN algérien, d'après des archives en grande partie, archives des dépôts français, mais venues aussi en grande partie de sources algériennes, montre bien que l'histoire de l'autre côté est tout à fait possible et qu'elle n'a pas non plus été refusée. Bon. Donc, je pense, pour conclure ce point, que la démarche historique et sa spécificité, donc qui est fondée en principe sur le fait de tenir compte de toutes les sources et de tous les camps, cette démarche historique est très mal perçue. Et l'idée générale est bien que les historiens, au fond, sont des partisans comme les autres, partisans le plus souvent donc de l'un des camps, et donc dénoncés par l'autre comme prêtant un renfort abusif à cet autre camp. Bon, Et du coup, je crois que la tendance politique est largement dominante dans la perception de l'opinion publique, ce qui fait que, du coup, également, les débats à propos de la guerre d'Algérie, qui se sont redéveloppés dans la presse et dans l'ensemble des organes d'expression de l'opinion depuis quelques années, eh bien, tendent à reproduire, malheureusement, les débats politiques et moraux qui s'étaient posés pendant la guerre elle-même, notamment en 1957, à propos de la bataille d'Alger et de la torture employée par l'armée française. Et donc, il me paraît regrettable que les historiens soient absents, en tout cas ne soient pas perçus, soient inaudibles en tant que tels dans ces débats qui restent avant tout politiques. Alors j'ajouterais, pour finir ce point, que malgré tout, l'expérience montre aux historiens les dangers de cette situation et je constate que plusieurs d'entre eux ont été conduits à prendre des positions qui ne sont pas uniquement contre des attitudes... je dirais, des attitudes réactionnaires ou colonialistes, mais aussi bien contre les abus de personnages qui se réclament, au contraire, d'une attitude de gauche tout à fait insoupçonnable. Et malgré cela, eh bien, je constate qu'un certain nombre d'historiens, enfin, y compris mon voisin de gauche, c'est le cas de le dire, ont également pris des positions, non seulement contre des fiefs colonialistes, mais aussi contre des fiefs anticolonialistes, si je peux ainsi m'exprimer, mais qui manque à la rigueur historique autant dans les deux cas.
Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle.
Les livres d'histoire que l'on achète, c'est pour comprendre l'époque et comprendre une époque et surtout éviter ce péché majeur pour l'historien qui est l'anachronisme, c'est-à-dire de projeter nos sentiments d'aujourd'hui sur le passé. Alors, faire le bilan de la colonisation, c'est absolument impossible. Car qui dit bilan? Qu'est-ce que ça veut dire un mot bilan? Ça veut dire un bilan, ça veut dire en deux colonnes. Ça veut dire l'actif, ça veut dire le passif. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a dressé le bilan, il y a soit une perte, soit un profit. Il est évident que c'est totalement absurde.
Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
C'est la morale qui intervient dans l'histoire. Ça va même au-delà du bilan comptable. Il faudrait faire un bilan comptable et en plus donner une valeur morale. L'historien ne peut pas rentrer là-dedans.
Voilà pour ma première partie. Maintenant, la deuxième, mémoire et histoire du 8 mai 1945. Alors c'est un aspect particulier, mais dont l'importance n'a pas été suffisamment reconnue jusqu'à présent, de ce problème donc de la mémoire et de l'histoire de la guerre d'Algérie. Alors le 8 mai 45, c'est... Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une répression, mais c'est aussi d'abord une insurrection, donc qui a été, il est vrai, très sévèrement et démesurément réprimée. Donc cette insurrection qui a éclaté... à Sétif et un peu plus tard à Guelma, le 8 mai 45 et dans les jours qui ont suivi. Alors le problème, c'est que, enfin, disons fondamentalement, c'est le même problème que pour ce qu'on appelle la guerre d'Algérie proprement dite de 1954 à 1962. Les deux camps opposés sont en gros les mêmes. Donc d'un côté des émeutiers nationalistes algériens, de l'autre l'armée française obéissant à l'État français, plus exactement le gouvernement provisoire de la République française présidé par le général de Gaulle. Mais si le problème est le même que pour la guerre de 54 à 62, il y a néanmoins des différences. Alors en particulier une dissymétrie des forces encore plus nette, beaucoup plus nette que dans la guerre d'Algérie, dans la mesure où il y a d'un côté quelques milliers d'émeutiers très mal armés, sans véritable organisation ni stratégie. Alors, le contraste a atteint un maximum à Guelma, où on ne peut même pas constater une véritable insurrection avant le déchaînement de la répression. Alors, simplement, il ne faut pas... en tirer pour autant des conclusions très générales, car il ne faut pas oublier que le sous-préfet de Guelma, le célèbre Akhiari, organisateur de la répression, eh bien, savait par téléphone qu'il s'était passé des choses très graves à Sétif, et donc on ne peut pas isoler totalement l'analyse de ce qui s'est passé à Guelma. Alors, la question est de savoir s'il faut voir dans cette répression un crime contre l'humanité, voire un génocide, comme cela se dit en Algérie. C'est en tout cas la thèse soutenue depuis 1990 par une association appelée la Fondation du 8 mai 45, fondée en 1990 par Bachir Boumaza, donc ancien militant du FLN, ancien ministre. On peut ajouter que cette revendication a été adoptée au point de devenir peut-être quasi officielle au plus tard le 8 mai 1995. Enfin, on voit par la presse algérienne que les cérémonies du 8 mai ont donné lieu à des commentaires qui reprenaient tout à fait les thèses de la fondation du mai 45. Et en tout cas, il est certain que cette revendication, alors revendication pour la France de reconnaître et d'assumer la responsabilité d'un génocide, alors, a été présentée d'abord à Paris par le président Bouteflika quand il est venu le 14 juin 2000 à l'Assemblée nationale. Alors, revendication officielle, mais il est vrai, exprimée dans des termes un peu voilés pour ménager la susceptibilité de ses interlocuteurs. Ce qui fait que le président de la République, Jacques Chirac, a, semble-t-il, pendant plusieurs années, fait semblant de ne pas avoir compris. Mais toujours est-il que, à la suite des polémiques déclenchées en France par le vote de la loi du 23 février 2005, donc qui rendait hommage à un certain nombre de catégories de victimes françaises de la guerre d'Algérie, eh bien, les autorités algériennes ont fini par s'émouvoir, et donc, à partir du 8 mai 2005, les choses sont devenues parfaitement claires et nettes, puisque le président Bouteflika a intégralement reproduit dans ses discours, et tous les officiels algériens en ont fait autant, donc la revendication de la fondation du 8 mai 45.
Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas.
Et ces jeunes qu'on dit issus d'immigration, qui sont de jeunes Français, constatent simplement qu'ils subissent des discriminations. Ils essaient d'élucider les raisons de ces discriminations. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Ben voilà, que ce soit du Maghreb, de l'Afrique ou de la Caraïbe, leurs parents viennent de l'ancien empire colonial français. Et pour ça, ils sont refoulés hors de la société.
Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas.
Le problème est que cette revendication, qui est en fait une revendication de reconnaissance d'un crime contre l'humanité par la France, eh bien, c'est elle qui a condamné à l'échec, au moins momentanément, la négociation d'un traité d'amitié franco-algérien qui avait été proposé par le président Chirac à l'Algérie en 2003 et qui semblait en bonne voie, même si elle avançait plus lentement que l'élaboration de la loi du 23 février 2005. Alors, le problème est que donc cette revendication algérienne me paraît tout à fait contraire au principe des accords d'Évian du 18 mars 1962. Les accords d'Évian étaient fondés sur une sorte d'amnistie réciproque, même si elle était implicite. Donc, les Français et les Algériens s'amnistiaient mutuellement de tous les faits qu'ils se reprochaient. Or, désormais, si la France accepte la condition posée par l'Algérie, eh bien, cela voudrait dire que la France assumerait la culpabilité de tous les crimes commis, et non seulement de 54 à 62, non seulement en mai 45, mais même en remontant jusqu'en 1830. Alors, en effet, la revendication de l'Algérie, telle qu'est exprimée dans toutes les commémorations officielles du 8 mai depuis 1995, c'est que la France doit reconnaître la responsabilité de tous les crimes contre l'humanité qu'elle a commis de 1830 à 1962 en Algérie. Alors, je pense qu'il faut le dire parce que personne ou presque ne l'a dit. En tout cas, je ne l'ai pas lu dans la presse et je ne l'ai pas entendu non plus de la part du gouvernement. Alors, les leçons de l'échec de la colonisation de l'Algérie. Donc, puisqu'on nous y invite, je remonte dans le temps jusqu'en 1830. Et donc, il s'agit de savoir comment nous devons présenter cette colonisation française et les raisons de son échec. C'est évidemment un fait historique de première importance, mais quelles conclusions politiques faut-il en tirer ? Alors, la revendication algérienne, j'y reviens encore. Oui, la revendication algérienne est que la France doit reconnaître qu'elle a mené une entreprise criminelle en Algérie contre le peuple algérien de 1830 à 1962, puisque reconnaître avoir commis des crimes contre l'humanité, cela revient bien à cela. À l'opposé, la thèse des défenseurs de l'Algérie française est au contraire inverse. Elle estime que la France n'a pas à se repentir d'une œuvre fondamentalement positive et abusivement calomniée. Certes, cette œuvre a été imparfaite, mais quelle œuvre humaine ne l'est pas ? Mais quelle doit être enfin la position des historiens ? Je pense qu'elle doit se démarquer de ces deux thèses abusives parce qu'elle doit rester critique. Or, quelle que soit la différence entre les interprétations proposées par différents spécialistes du problème algérien, il me semble indéniable qu'il y a une différence fondamentale dans la manière de traiter les populations en Algérie et dans les résultats de ces deux traitements différents. D'un côté, un certain nombre de catégories, français d'origine, étrangers, naturalisés français, même juifs algériens, même s'ils ont été à un moment privés de la citoyenneté française par le régime de Vichy, donc citoyenneté française accordée en 1870. Et j'ajouterais dans la même catégorie un petit nombre de ceux qu'on appelait les indigènes, alors soit qu'ils aient fait l'option individuelle pour la pleine citoyenneté française, qu'on appelle la naturalisation, soit qu'ils aient été convertis au christianisme, et c'était généralement le cas de, disons, de personnes qui avaient une situation sociale très modeste dans la société algérienne, mais qui ont été plus ou moins prises en charge par les missionnaires. Eh bien, au total, toutes ces catégories qui ont bénéficié de la citoyenneté française, on peut dire qu'elles ont connu la même progression, non seulement civique, mais économique et sociale, que l'ensemble des populations de la France à la même époque. Et même s'il n'y avait pas que des gros colons parmi les citoyens français d'Algérie, il n'empêche que, globalement, leur situation était très supérieure à celle des indigènes. En effet, l'autre catégorie qui représentait la grande masse de la population dite indigène, c'est-à-dire la population la plus nombreuse en Algérie, donc cette population indigène et musulmane, est restée dans sa grande majorité en dehors de la citoyenneté française. Et seules des élites minoritaires ont connu les bienfaits de cette citoyenneté, mais ces bienfaits ont été réservés à des individus ou à des catégories d'élite et n'ont jamais été distribués à la masse. Alors, on peut discuter, on a beaucoup discuté, pour savoir si cette situation s'explique par un aveuglement volontaire ou par une impuissance à poser le problème fondamental et à décider d'une solution adéquate. Le fond du problème, me semble-t-il, c'est avant tout le problème de l'islam dans une terre réputée française. D'une part, on décrétait que l'Algérie était terre française et à ce titre, l'ensemble des lois françaises auraient dû s'y appliquer. Mais d'un autre côté, on reconnaissait que la grande majorité de la population était musulmane et qu'on ne pouvait pas lui imposer la citoyenneté et l'ensemble des lois françaises. Le résultat a été, me semble-t-il, une impuissance à choisir entre ces deux formules contradictoires. En tout cas, je constate que depuis l'indépendance de l'Algérie, ceux des Algériens qui sont restés ou qui sont revenus en France, eh bien, au moins leurs enfants ont été déclarés français par la naissance, et cette nationalité française a été clairement incompatible avec le maintien du statut personnel musulman. Donc, en France depuis 1962, être français, ça veut dire être soumis à toutes les lois françaises. Bon, et on peut penser que, malgré les différences entre les deux situations, eh bien, les résultats ne sont pas les mêmes et que la francisation des Français d'origine algérienne ou autre a quand même progressé depuis cette date.
dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle.
Je crois qu'il y a une question qui est très importante, c'est qu'il y a une pression des groupes de mémoire dans la société française aujourd'hui pour faire en sorte, effectivement, que leur vécu, leur douleur soit prise en compte et reconnue.
Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
Ensuite, quatrième partie, les leçons à tirer de l'époque ottomane. Alors, c'est-à-dire la période de 3 siècles antérieure à la colonisation française, durant laquelle l'Algérie a été rattachée à l'Empire turc ottoman. J'essaie d'aller de plus en plus vite. Bon. Oui, oui. Alors, c'est une période que nous avons, nous, historiens contemporanéistes, tendance à négliger, parce que ça relève de l'histoire dite moderne. Mais est-ce que vraiment nous pouvons commencer nos analyses en 1830, comme s'il ne s'était rien passé avant? Alors, un exemple. Nous avons tendance à dénoncer ou à regretter le racisme qui a été souvent reproché aux Français d'Algérie d'origine espagnole ou italienne, et peut-être aussi d'origine française. Mais est-ce que cela peut vraiment se comprendre sans tenir compte des siècles antérieurs et du fait que pendant 3 siècles, ce qu'on appelait la piraterie barbaresque, qui était en fait organisée par des Turcs, enfin Turcs d'origine ou Turcs de profession, eh bien, a fait peser une très lourde menace sur la sécurité des peuples chrétiens d'Europe sur terre et surtout sur mer. Bon. Alors, nous avons, nous, Français, tendance, même les historiens, à considérer que nous devons être solidaires de la politique géniale d'alliance entre la France et l'Empire ottoman, qui a été définie par le roi François Ier au début du XVIe siècle. Et du coup, nous, comme nous sentons solidaires, eh bien, nous avons tendance à minimiser les plaintes qui ont duré 3 siècles des populations chrétiennes d'Europe contre la piraterie ou la course ottomane. Mais quand nous regardons un certain nombre d'ouvrages d'historiens sur le sujet, notamment celui de Jacques Herz, Les Barbaresques, ou celui d'un historien américain, Robert Davis, Esclave chrétien, maître musulman, sans forcément partager toutes les tendances politiques de Jacques Herz, nous pouvons nous demander si vraiment cette politique a été aussi géniale que cela. En tout cas, nous devons dire que nous avons tendance à simplifier le passé en nous imaginant que depuis François Ier, la France n'a eu qu'une seule politique envers l'Afrique du Nord, donc une politique d'alliance ottomane. Or, et du coup, la conquête d'Alger par Charles X en 1830 apparaît comme absurde, comme le reniement de cette politique bien française. Or, ce n'est pas cette continuité de la politique française d'alliance ottomane est un mythe. Car pendant la plus grande partie du XVIIe siècle, la France a été en guerre avec les Turcs d'Alger de 1603 à 1689, et même les relations entre la France et l'Empire ottoman proprement dit, le sultan d'Istanbul, eh bien, il y a eu également une quinzaine d'années de rupture au début du règne de Louis XIV. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aussi reconsidérer, d'une façon qui ne soit pas déterminée par des partis pris politiques, ce qu'a été donc cette politique franco-ottomane d'une part, mais aussi les griefs qui peuvent avoir été ressentis de façon tout à fait valable par la majorité des populations d'Europe occidentale envers les Turcs ottomans d'Alger.
Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
Dernier point, les origines du conflit. Oui, je conclue le plus vite possible. Les origines du conflit entre l'Europe chrétienne et l'islam. Bon, nous avons tous en tête les violences ou les cruautés de nos ancêtres les croisés quand ils ont pris Jérusalem, Constantinople ou Grenade. Là, je parle des croisés espagnols. Mais si, pour autant, nous cherchons à rechercher les auteurs de la première violence entre les peuples musulmans et les peuples chrétiens d'Europe, nous sommes obligés de dire que ce n'est pas le bon roi Dagobert, même s'il n'était sûrement pas aussi bon que le veut la chanson, qui a déclenché les hostilités. Et donc, cette violence ne peut pas être considérée uniquement comme une faute des chrétiens, est à l'origine des différentes péripéties, des différentes avancées, offensives, contre-offensives des uns et des autres. Il n'empêche que la division de la Méditerranée en deux camps qui sont restés hostiles pendant des siècles, n'est pas due aux chrétiens d'Occident. Bon, j'aurais des choses à rajouter pour préciser ma pensée là-dessus, mais comme on me demande d'abréger, je laisse tomber cette précision et j'apporterai la réponse si on me pose la question. Et enfin, dernière partie, la sixième, l'Antiquité. Rassurez-vous, je n'ai rien à en dire, parce que ce soit à l'époque des guerres puniques entre Rome et Carthage ou à l'époque de l'Empire romain, certes, je ne suis pas historien de l'Antiquité, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de conflit majeur entre nos ancêtres les Gaulois et les Berbères d'Afrique du Nord. En gros, on peut dire qu'il y a eu une histoire commune entre les deux rives de la Méditerranée, et c'est très bien comme ça. Et je vous remercie de votre patience.
Au niveau de la période de 1941, vous n'avez pas parlé de l'arrivée des peuplades berbères du sud de l'Oranie qui avaient fait une manifestation pour demander, d'abord, il y avait de gros problèmes de famine, et ils ont demandé, ce jour-là, ils ont fait une manifestation qui a eu une grosse répression. Je pense que c'était dû au pouvoir de l'époque, c'est-à-dire sous le pouvoir de Vichy, et il y a eu une répression assez importante. Ils demandaient la part entière pour être reconnus comme Français à part entière à cette époque-là, 1941. Je veux citer par exemple le livre de...
André, on ne refait pas l'histoire. Il faut poser la question.
La question. Non,
mais c'est autrement, on passe à la question. Si tout le monde refait l'histoire.
Non, je ne refais pas. Je me réfère au livre de Mohamed Dib, Le métier à tisser, par exemple, où il en parle. Alors, je pense que... Est-ce que vous pouvez nous donner une explication sur ce phénomène-là? Parce que vous n'en avez pas parlé. Vous avez parlé de Sétif et de Gelma. C'est tout.
Oui. Le fait là dont vous me parlez, j'avoue que j'ai un peu de mal à le situer exactement dans le temps. Et je pense que beaucoup de choses dépendent du moment. Enfin, ce qui est certain, c'est que le régime de Vichy a été amené à abandonner, je dirais, le côté paradoxal du gouvernement de la Troisième République en Algérie. Donc une Troisième République qui était en principe démocratique et qui, en Algérie, ne l'était évidemment pas, puisque la grande majorité de la population était privée de la pleine citoyenneté française. Bon. Donc le régime de Vichy, ça a été en quelque sorte le règne de la violence coloniale remise à nu, justement en partie à cause de l'échec de cette politique coloniale de la Troisième République, et aussi pour des causes générales. Alors ce qui est certain, c'est que les années de Vichy ont été des années très importantes, en partie pour la progression des idées nationalistes dans la masse musulmane, due justement à l'incapacité manifeste de ce régime, bien qu'il ait eu quelques idées de réforme intéressantes. Donc l'incapacité à maintenir le niveau de vie existant et surtout à empêcher que celui de la masse musulmane s'effondre encore beaucoup plus bas qu'il était auparavant. Et d'autre part, cela a facilité donc la diffusion des idées nationalistes par le Parti du peuple algérien qui était clandestin et qui tendait à se radicaliser étant donné le contexte mondial. Et il y avait même un certain nombre de projets, même de plus en plus de projets d'insurrection, même s'ils n'ont pas abouti avant la fin du régime de Vichy pour la plupart. Autre...
Non, Monsieur Pouillot, une question, puis ensuite...
Oui. Si.
Alors, Monsieur Pouillot d'abord. Enfin bon, vous avez le micro.
Excusez-moi, je peux ouvrir le micro. Oui, vous avez fait une remontée vertigineuse et passionnante dans l'histoire. Il y a une période qui m'intrigue beaucoup, qui est peut-être méconnue, qui est la période, disons, anti-islamique d'Afrique du Nord, pour parler plus généralement. Je ne sais pas si on peut séparer l'Algérie de la Tunisie et donc Carthage, enfin de ce qui a suivi Carthage. Est-ce qu'il y a eu à cette époque-là une forme de christianisation en Algérie ?
Oui, bien sûr.
Et comment s'expliquer ? Je pense qu'il y a une explication, enfin peut-être les historiens ont travaillé la question. Est-ce qu'il y a eu un effondrement, si on peut dire, ou une substitution dans les populations qui vivaient en Algérie à ce moment-là par l'islam? Comment ça a pu se passer? C'est quelque chose qui est, à mon avis, très, très peu connu. Enfin, moi, j'ai connu.
Oui.
Bonne question.
Oui, je vais essayer de vous répondre. Je ne suis pas spécialiste, mais enfin, j'ai quelques notions qui sont approuvées par mon voisin, je crois. Effectivement, l'Afrique romaine a été une terre chrétienne et même la première terre chrétienne en importance dans la partie occidentale de l'Empire romain. Et il y a eu de très nombreux évêchés. Enfin, toutes les cités de l'Afrique romaine avaient leur évêque au IVe siècle après Jésus-Christ. Et pourtant, ce christianisme africain s'est effondré et a disparu en un temps remarquablement bref, puisque c'est soit à la fin du XIe, soit dans le cours du XIIe siècle, que les derniers chrétiens ont disparu. Enfin, ou peut-être il y a eu un dernier îlot dans le sud tunisien jusqu'au XIVe. Bon. Mais alors, l'explication me paraît être la suivante, c'est qu'en fait, en Afrique, le christianisme était lié à la romanisation beaucoup plus qu'ailleurs. Alors, en Orient, il y avait non seulement l'église grecque, qui était la première église chrétienne en date, mais aussi une église égyptienne copte, une église syriaque, qui employait chacune la langue locale. Or, en Afrique du Nord, l'église chrétienne, c'était l'église catholique romaine, qui employait le latin, comme le faisait l'ensemble des populations urbanisées dans le cadre de l'Empire romain. Mais il devait y avoir probablement des populations incomplètement ou pas du tout romanisées, notamment dans les montagnes. Et surtout, la plus grande partie de la région peuplée par les Berbères est restée en dehors de l'Empire romain. Alors tout cela fait, donc l'absence d'un christianisme en langue berbère a fait que le christianisme a disparu beaucoup plus vite qu'ailleurs. Alors pourquoi a-t-il disparu? Eh bien justement parce qu'il a été concurrencé. À la fois le latin et le christianisme ont été concurrencés par l'apport de l'arabe et de l'islam par les nouveaux conquérants. Voilà.
Vous présentez, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, je m'appelle Mourad. Oui, je voudrais poser une question par rapport à la nouvelle loi votée par la droite sur le rôle positif de la colonisation, notamment en Afrique du Nord. Donc, votre avis là-dessus?
Oui. Ma position sur la loi du 23 février 2005, d'ailleurs, j'avais prévu de le dire, mais j'y ai renoncé pour gagner du temps, c'est que, bon, la loi du 23 février 2005, bon, certes, est une loi qui est certes tout à fait critiquable, enfin, par le fait qu'elle empiète sur le rôle des institutions chargées de définir les programmes scolaires. Mais cette loi de 1905 ne doit pas être, à mon avis, jugée indépendamment d'un ensemble plus large de lois mémorielles dont ce n'est pas la première, ni à mon avis la plus grave. Alors en particulier la loi précédente, donc la loi dite loi Taubira et Hérault de mai 2001, qui définit la déportation et la mise en esclavage des Noirs, donc pour la colonisation des Amériques, comme un crime contre l'humanité. Alors cette loi pose un énorme problème par le fait qu'elle confond totalement ce qui relève, je dirais, de la morale et de la morale politique, qui évidemment condamne totalement l'esclavage et la mise en esclavage, l'exploitation des esclaves, mais aussi avec ce qui relève du droit, car une loi, c'est quand même avant tout un document juridique. Or, d'après la loi française, la notion de crime contre l'humanité existe en tant que crime depuis le nouveau code pénal de 2004. Et cette notion de crime contre l'humanité a déjà été introduite en droit français par le statut du tribunal international de Nuremberg en 1945, mais avec une validité limitée aux crimes nazis et non pas à l'ensemble des crimes. Donc on peut se poser la question de la validité de cette loi par rapport au fait la période de l'esclavage et de la déportation des Noirs qui va, d'après la loi elle-même, du XVe siècle au XIXe, est totalement en dehors de la période dont il reste des survivants. Or, la justice ne peut juger que des vivants et non pas des morts. Alors, est-ce que c'est une curiosité absurde mais sans importance? Je ne crois pas, parce que cette loi n'est pas seulement une loi mémorielle, c'est aussi une loi pénale. Et il y a à la fin un article pénal qui a été invoqué pour traduire en jugement un historien qui avait des opinions différentes sur la question, mais qui a été reconnu comme un historien tout à fait valable. Donc il y a le problème des lois antérieures, mais il y a aussi le problème de la, du projet de traité franco-algérien qui était en cours de négociation en même temps que la loi. En fait, c'était un ensemble dans la politique du gouvernement français. Il voulait à la fois sa main droite poursuivre la négociation d'un traité d'amitié franco-algérien sur le modèle du traité franco-allemand et de sa main gauche satisfaire les rapatriés et les harkis. Bon, le fait est que la loi est allée plus vite que le traité, mais on doit s'interroger non seulement sur la validité de la loi, mais aussi sur celle du traité, dans la mesure où la position des autorités algériennes, comme je l'ai dit, c'est purement et simplement la revendication de repentance de la France pour des crimes contre l'humanité commis depuis 1830. Or, c'est là que tout se tient. Comme la France a voté la loi Taubira-Hérault, qui reconnaît des crimes contre l'humanité depuis le XVe siècle, comment peut-elle refuser de satisfaire la demande algérienne? Voilà.
Cette émission s'achève. Merci beaucoup à Guy Pervillier ainsi qu'aux organisateurs des Journées de la Razette.